France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Mardi 12 février, bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, passer son permis de conduire dès 17 ans, c'est l'une des pistes du rapport remis aujourd'hui au Premier ministre pour réformer ce permis jugé trop coûteux, trop long, trop compliqué. On voit ça après les autres titres.
Un nouveau départ dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Son conseiller spécial Ismaël Emien va quitter ses fonctions. Son nom est apparu récemment dans l'affaire Benalla. Carlos Ghosn a toujours un pied chez Renault, ce qui pourrait lui permettre de toucher de substantiels bonus. Un procès historique en Espagne, celui de 12 dirigeants indépendantistes catalans. Et puis un duel au sommet ce soir, PSG-Manchester United, quand Kylian Mbappé affronte Paul Pogba.
Bonjour Léa Salamé.
Bonjour Monsieur Nicolas.
Votre invité Léa à 7h50.
Il en a ras-le-bol des critiques incessantes de François-Xavier Bellamy. On lâche les chiens sur lui, on le disqualifie avant même de l'écouter, on réactive le délit d'opinion. Bref, il est en colère, Bruno Retailleau, et il vient défendre la nouvelle tête de liste de son parti pour les européennes. Le président du groupe Les Républicains au Sénat sera notre invité à 7h50.
A tout à l'heure Léa, à 8h20 le projet de loi santé qui est demain au Conseil des ministres. On va détailler les axes de cette réforme avec Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé. Elle est l'invitée du grand entretien de la matinale. Le standard est ouvert, les réseaux sociaux aussi. Ne parlons même pas de l'application France Inter. Intervenez dès maintenant.
France Inter.
Passer son permis de conduire aujourd'hui en France coûte trop cher, 1800 euros en moyenne, prend trop de temps et creuse les inégalités. Sujet sensible dans le contexte actuel du mouvement des Gilets jaunes. Le rapport de la députée La République En Marche, Françoise Dumas, remis aujourd'hui au Premier ministre, propose donc 23 pistes pour réformer ce permis. Parmi elles, selon Le Parisien aujourd'hui en France, la possibilité de passer le permis dès 17 ans, à condition d'avoir bénéficié de la conduite accompagnée. Mais aussi, Claire Chaudière, l'intégration du permis de conduire dans le tout nouveau service national universel.
Pendant la première phase du futur service universel, en internat, les élèves pourraient effectivement passer leur code gratuitement et cela après l'avoir préparé dans le cadre du cursus scolaire. Ils verraient ensuite l'apprentissage de la conduite fortement subventionné pour ceux qui participent à la deuxième phase facultative du SNU, phase d'engagement. La députée Françoise Dumas, auteure du rapport.
Pour ceux qui en seraient le plus éloignés, ça permettrait quand même de leur donner confiance jusqu'au passage du permis qui serait donc pris en charge par l'État. Il y a une très grande inégalité des chances en termes de genre, de territoire, de milieux sociaux.
Pour lutter contre ces inégalités, de nouveaux outils pédagogiques comme les simulateurs de conduite en salle, par petits groupes et avec un formateur, doivent être développés, dit le rapport, jusqu'à remplacer toute une partie de l'apprentissage, plus efficace et à terme moins cher. Autre idée, supprimer les places réservées par les auto-écoles aux examens de conduite. Tout le monde serait en candidat libre pour éviter que les moniteurs ne fassent traîner les formations avec plus d'heures de cours. Enfin, un portail d'informations obligatoire territoire par territoire recensant toutes les aides financières possibles, mais pas de proposition de refonte de ces fameuses aides éparpillées et peu lisibles.
Et les auto-écoles qui manifestaient hier leur inquiétude face au développement des plateformes en ligne ont obtenu un rendez-vous après-demain avec le Premier ministre. C'est un conseiller de l'ombre fidèle de la première heure d'Emmanuel Macron qui quitte l'Élysée. Ismaël Emien a annoncé hier soir qu'il allait se consacrer à partir de fin mars, début avril à une nouvelle forme d'engagement, officiellement l'écriture d'un livre. Mais le nom d'Ismaël Emien est apparu ces dernières semaines dans l'enquête sur l'affaire Benalla. Emmanuel Leclerc.
Les enquêteurs du 36 de la police judiciaire parisienne sont persuadés qu'Ismaël Emien était proche, très proche d'Alexandre Benalla au point d'avoir échangé des SMS avec lui jusqu'à 2h30 du matin la nuit suivant les révélations du journal Le Monde l'été dernier sur l'arrestation musclée des deux manifestants place de la Contrescarpe. Alexandre Benalla venait surtout de récupérer illégalement des vidéos de la préfecture de police censées le dédouaner. Les enquêteurs, comme l'avait révélé le magazine L'Obs, soupçonnent Ismaël Emien d'avoir à son tour récupéré les vidéos et d'avoir, depuis l'Élysée, mis en ligne un extrait sur Twitter avec un message de soutien à Benalla sous pseudo à 3h59 du matin. Cela fait plusieurs mois que l'on en est là. Ismaël Emien n'a pas encore été entendu par la police judiciaire ou les magistrats en charge du dossier. Il n'a pas eu à subir de percussions perquisition ou de tentative de perquisition. Les enquêteurs affirmaient jusque-là qu'ils marchaient sur des œufs. On a vu à Mediapart la semaine dernière que la justice pouvait prendre moins de gants pour identifier les sources d'un média dans l'un des autres volets de l'affaire Benalla.
Mediapart qui a diffusé hier de nouveaux éléments sur le rôle présumé joué par Alexandre Benalla dans la conclusion de contrats de sécurité avec deux oligarques russes, contrats passés avant et après son départ de l'Elysée pour un montant total de plus de 2 millions d'euros. Le ministre de l'Intérieur dénonce le poison de l'antisémitisme qui se répand comme un fiel. Christophe Castaner qui a annoncé hier soir une hausse de 74% des actes antisémites en France l'an dernier. Nous y reviendrons en détail dans le journal de 8h.
Il est 7h05. Carlos Ghosn n'est plus PDG de Renault, mais il a gardé un pied dans l'entreprise qui pourrait lui permettre, Agnès, de toucher d'importants bonus.
En prison au Japon depuis presque 3 mois, Carlos Ghosn a en effet gardé une fonction au sein du constructeur automobile français, celle d'administrateur. Et cette fonction, Maxime Debs, pourrait lui garantir de toucher un jour le pactole.
Charles Pinel est associé chez Proxinvest, société qui conseille entre autres les petits actionnaires. Il est le premier choqué que Carlos Ghosn soit toujours administrateur et puisse, à ce titre, aspirer à empocher de substantiels bonus.
C'est choquant, surtout que le communiqué de presse de Renault annonçant le départ de Carlos Ghosn était très ambigu.
Une ambiguïté qui change sérieusement la donne. En fait, si Renault réalise de bons résultats, le contrat de Carlos Ghosn stipule qu'il peut monnayer des actions parfois des années plus tard, à condition, c'est là que c'est important, d'avoir toujours un pied dans l'entreprise, ce qui est donc toujours son cas. C'est ainsi que 7 millions d'euros en actions devraient théoriquement revenir à Carlos Ghosn cette année sur les résultats 2014 et 2015. Il y a droit, estime Jean-Yves Le Borgne, son avocat.
Il n'y a pas d'octroi, il n'y a pas de don, il n'y a pas de générosité. Nous sommes dans une situation écrite.
Pour Proxinvest, si Renault accepte ça, demain la note risque encore de flamber, monter à 20, pourquoi pas 30 millions. Il faut arrêter ça, s'opposer tout de suite. Hier soir, Jean-Dominique Senard, le nouveau président de Renault, a poliment balayé une question sur le sujet, promettant d'y revenir lorsqu'il sera d'actualité.
Pour quitter leur entreprise, de plus en plus de salariés ont recours à la rupture conventionnelle. Ce dispositif, créé il y a 10 ans, a séduit l'an dernier 437 000 travailleurs, soit une hausse de 3,9% par rapport à 2017. En bref, encore, le montant du butin dérobé hier matin dans un fourgon de la Loomis à Aubervilliers a été revu à la hausse. Ce sont 3 millions d'euros qui ont disparu du fourgon et le convoyeur de fond qui était seul à bord au moment du vol est toujours activement recherché. Et puis 12 personnes ont été blessées, dont une grièvement hier soir, lors de la collision de deux tramways à Issy-les-Moulineaux, en région parisienne. Des bus de substitution vont circuler aujourd'hui entre les stations Parc de Saint-Cloud et Porte de Versailles.
Il est 7h08, le début en Espagne, Agnès, du procès historique de 12 dirigeants indépendantistes catalans.
Un procès très sensible politiquement, tant la question de l'indépendance de la Catalogne peut enflammer les esprits. 12 dirigeants doivent donc comparaître durant 3 mois devant un tribunal madrilène pour tentative de sécession et rébellion. Ils risquent jusqu'à 25 ans de prison. Depuis leur placement en détention provisoire, leur famille se mobilise. Mélanie Nunez les a rencontrés à Barcelone pour France Inter. Reportage.
Depuis près de 15 mois, chaque lundi, Nuria et Pere brandissent le portrait de leur fils, Jordi Sanchez, l'un des leaders emprisonnés, ancien responsable d'une association indépendantiste.
Je suis très inquiète. Je sais que nous allons très mal le vivre. Nous espérons qu'ils sortent libres, mais ils ne voudront pas.
C'est une vengeance politique.
Près d'eux, leur belle-fille Susana Barreda, mère de 3 enfants, épouse de Jordi Sanchez. Elle ne se déplace plus sans son ruban jaune accroché sur son cœur, signe de soutien.
L'acquittement, qu'ils sortent. Ces accusations sont exagérées. Les peines sont très sévères, 17 ans, c'est une folie.
Xel Bonnet, la compagne d'un autre leader en détention, Jordi Cuixart, regrette que ce jugement se tienne à plus de 6 heures de route.
C'est impossible de rester tout le procès. On est prêt pour les pires et on a l'espoir pour les meilleurs. Alors ça, c'est une petite guerre, mais il est très conscient que tout ce qu'il a fait, c'est légitime.
Un procès qui devrait durer 3 mois, un jugement express avant les élections européennes, estiment les familles, une tactique selon elles pour éviter tout scandale politique.
pendant le scrutin. Barcelone, Mélanie Hunès, France Inter.
Et quant au leader Carles Puigdemont, il vit toujours en exil en Belgique, près de Bruxelles. Grâce à Dieu, le film de François Ozon a été projeté hier soir en avant-première à Sainte-Foy-lès-Lyon, l'ancienne paroisse du Père Prénat. C'est au sein de cette paroisse, où lors de conscouts, que des dizaines d'enfants ont été abusés par ce prêtre pédophile qui a avoué les faits. Le film raconte l'histoire de quatre victimes qui, en fondant l'association La Parole Libérée, ont révélé ces abus. Julie Pietri a assisté hier soir à la projection et au débat entre colère et émotion qui a suivi.
Les applaudissements sont pour François Ozon qui, dès qu'il a eu le micro en main, s'est dit très ému d'être ici sur les lieux du crime, ce qui a déclenché quelques rires. Applaudissements aussi pour les fondateurs de La Parole Libérée. Alexandre Aizé a porté plainte contre le Père Prénat en 2015.
Un film par rapport à des reportages, des articles de journaux, ça cristallise une histoire. En fait, on passe d'un fait divers à quelque chose de beaucoup plus universel.
Quand le débat débute un peu plus tard, il devient évident que cette projection ne ressemble à nul autre.
Oui, monsieur. Oui. Moi, je suis scandalisé de dire, mais c'est pas possible. On a vécu dans ce quartier pendant des années, on n'a rien su.
Au premier rang, une ancienne chef scout auprès du Père Prénat.
Il faut vraiment se dire qu'il dégageait quelque chose de vraiment très fort en fait, il était vraiment charismatique.
Au deuxième rang, une femme visage enfoui dans ses mains semble ne pas pouvoir regarder ce qui s'exprime. Au troisième rang, le père Dominique Djoko, nouveau curé de Sainte-Foy.
Il faut arrêter avec ça, il faut faire attention, il ne faut plus qu'il y ait des choses comme ça dans l'église. Voilà.
Ceux qui ont parlé au micro dans la salle hier soir l'ont fait alors qu'ils se savaient enregistrés par un huissier de justice. Sa mission, rapporter tous les propos tenus sur le cardinal Barbarin et Régine Maire, bénévole de l'église, accusés tous deux de ne pas avoir dénoncé les actes du Père Prénat.
François Ozon qui sera demain à 7h50 l'invité de Léa Salamé.
Ils ont décroché ensemble la deuxième étoile de l'équipe de France.
Mais ils sont adversaires ce soir. Kylian Mbappé et le PSG affrontent Paul Pogba et Manchester United en huitième de finale aller de la Ligue des Champions dans le mythique stade d'Old Trafford. Des Parisiens diminués par les absences sur blessure de Neymar, Cavani et Meunier quand les joueurs de Manchester United collectionne les victoires depuis l'arrivée du nouvel entraîneur, Cédric Guillou.
Après une première partie de saison plombée par ses relations tumultueuses avec José Mourinho, Paul Pogba brille de nouveau depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer sur le banc mancunien le 19 décembre. Un retour en forme qui s'explique autant par la confiance que lui accorde son nouvel entraîneur que par un repositionnement tactique. Utilisé désormais comme un numéro 10 en soutien de l'avant-centre, Paul Pogba a une plus grosse influence sur le jeu offensif de Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer.
Je n'aime pas vraiment comparer les joueurs, mais je sais que Paul Pogba est en très grande forme. C'est un joueur offensif et quand il arrive dans la surface adverse, il y a toujours une occasion de but, une passe décisive ou un but.
Paul Pogba a inscrit 11 buts en Première Ligue cette saison, dont 8 depuis que Solskjaer est arrivé sur le banc. Il a aussi délivré 8 passes décisives. Les fans de Manchester United sont conquis.
C'est un joueur très important. Avec Mourinho, il ne jouait pas bien, mais c'est quand même un joueur qui a gagné la Coupe du Monde et c'est un excellent joueur.
Il n'était pas très bon en début de saison. Il n'était surtout pas très heureux. Mais pour moi, c'est un super joueur. Il est brillant. Un brillant joueur.
Revanchard après la pluie de critiques reçues en début de saison, Pogba affiche son meilleur niveau depuis près d'un mois. Le Paris Saint-Germain devra forcément s'en méfier ce soir. Manchester, Cédric Guillou, France Inter.
Coup d'envoi Nicolas à 21h.